Сейчас вы будете выполнять задание по аудированию. Каждый текст прозвучит два раза. После первого и второго прослушивания у вас будет время для выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены. По окончании выполнения всего раздела аудирования перенесите свои ответы в бланк ответов номер один. Задание 1. Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого говорящего АФ и утверждениями, данными в списке 1-7. Используйте каждое утверждение, обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Pourquoi voyagez-vous?
Speaker A.
On peut trouver un tas de bonnes raisons pour voyager, les unes poétiques, les autres à notre propre gloire, célébrant nos exploits. Mais en fait, pour moi, le voyage, c'est un état d'esprit. Parfois, quand je ferme la porte, je voyage et j'ai l'impression d'avoir découvert des choses, d'être parti de chez moi. Certaines personnes partent au bout du monde et ne sortent pas de chez elles, ne sortent pas de leur tête. Le voyage, pour moi, c'est une rêverie, une philosophie, une curiosité.
Speaker B.
Moi, je ne me considère pas comme une touriste, mais comme une voyageuse. Je crois que le tourisme est l'opposé du voyage. Aujourd'hui, la prestation touristique a remplacé le voyage. Si je vais dans un pays étranger, c'est pour le connaître. C'est-à-dire, avant tout, partager le quotidien de la population locale, sa manière de vivre, sa cuisine. D'ailleurs, à la fin de mes études, je suis partie en Australie avec mon sac à dos. J'étais partie pour 6 mois et j'y suis restée presque 2 ans.
Speaker C.
Pour moi, le voyage, c'est la connaissance du monde et la rencontre avec l'autre. Pas besoin de gros moyens financiers. Je suis un grand amoureux de la nature. Alors, quand je choisis une destination, je regarde toujours les possibilités des promenades, des randonnées, l'accès aux sites archéologiques aussi. Oui, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, tout ce qui a trait à l'histoire. Beaucoup de gens disent que ce n'est que de la vieille pierre, mais moi, je trouve ça fascinant.
Speaker D.
Nous, on est une famille nombreuse, alors les voyages, on ne peut pas trop se le permettre. Mais ce qu'on a fait l'année dernière, c'est d'aller tous à Paris passer un week-end pour voir l'exposition Picasso et ses maîtres. Il y avait énormément de monde, mais cela valait la peine. L'exposition que nous avons eu la chance de voir est absolument exceptionnelle par la concentration de tant de chefs-d'œuvre dans un même espace, même si le gris des murs les met peu en valeur.
Speaker E.
Moi, le plus grand choc culturel que j'ai eu, c'était au Guatemala, dans les communautés indigènes. J'étais allé y faire du volontariat et je me souviens que ça avait été très dur au début. La plupart des gens ne parlent pas français, ni anglais, ni même espagnol. Et puis, les relations sont très différentes. Les codes pour communiquer, tout ça. En plus, c'est difficile de se faire accepter quand on vient de l'extérieur. Mais finalement, ça a été une expérience très enrichissante.
Speaker F.
Mon copain et moi, on est allés en Islande l'année passée. Ça faisait longtemps que je voulais y aller. Pour moi, c'est le comble de l'exotisme. J'avais vraiment du mal à imaginer comment les gens vivent dans ce pays. Je veux dire, surtout par rapport au soleil, des mois où il fait nuit pendant presque 24 heures, et puis d'autres où il ne fait jamais totalement nuit. C'est tellement étrange. Et puis la langue, ça a été vraiment difficile de s'y retrouver. C'est tellement différent.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre les textes encore une fois.
Pourquoi voyagez-vous?
Speaker A.
On peut trouver un tas de bonnes raisons pour voyager. Les unes poétiques, les autres à notre propre gloire, célébrant nos exploits. Mais en fait, pour moi, le voyage, c'est un état d'esprit. Parfois, quand je ferme la porte, je voyage et j'ai l'impression d'avoir découvert des choses, d'être parti de chez moi. Certaines personnes partent au bout du monde et ne sortent pas de chez elles, ne sortent pas de leur tête. Le voyage, pour moi, c'est une rêverie, une philosophie, une curiosité.
Speaker B.
Moi, je ne me considère pas comme une touriste, mais comme une voyageuse. Je crois que le tourisme est l'opposé du voyage. Aujourd'hui, la prestation touristique a remplacé le voyage. Si je vais dans un pays étranger, c'est pour le connaître, c'est-à-dire, avant tout, partager le quotidien de la population locale, sa manière de vivre, sa cuisine. D'ailleurs, à la fin de mes études, je suis partie en Australie avec mon sac à dos. J'étais partie pour 6 mois et j'y suis restée presque 2 ans.
Speaker C.
Pour moi, le voyage, c'est la connaissance du monde et la rencontre avec l'autre. Pas besoin de gros moyens financiers. Je suis un grand amoureux de la nature. Alors, quand je choisis une destination, je regarde toujours les possibilités des promenades, des randonnées, l'accès aux sites archéologiques aussi. Oui, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, tout ce qui a trait à l'histoire. Beaucoup de gens disent que ce n'est que de la vieille pierre, mais moi, je trouve ça fascinant.
Speaker D.
Nous, on est une famille nombreuse, alors les voyages, on ne peut pas trop se le permettre. Mais ce qu'on a fait l'année dernière, c'est d'aller tous à Paris passer un week-end pour voir l'exposition Picasso et ses maîtres. Il y avait énormément de monde, mais cela valait la peine. L'exposition que nous avons eu la chance de voir est absolument exceptionnelle par la concentration de tant de chefs-d'œuvre dans un même espace, même si le gris des murs les met peu en valeur.
Speaker E.
Moi, le plus grand choc culturel que j'ai eu, c'était au Guatemala, dans les communautés indigènes. J'étais allé y faire du volontariat et je me souviens que ça avait été très dur au début. La plupart des gens ne parlent pas français, ni anglais, ni même espagnol. Et puis, les relations sont très différentes. Les codes pour communiquer, tout ça. En plus, c'est difficile de se faire accepter quand on vient de l'extérieur. Mais finalement, ça a été une expérience très enrichissante.
Speaker F.
Mon copain et moi, on est allés en Islande l'année passée. Ça faisait longtemps que je voulais y aller. Pour moi, c'est le comble de l'exotisme. J'avais vraiment du mal à imaginer comment les gens vivent dans ce pays. Je veux dire, surtout par rapport au soleil, des mois où il fait nuit pendant presque 24 heures, et puis d'autres où il ne fait jamais totalement nuit. C'est tellement étrange. Et puis la langue, ça a été vraiment difficile de s'y retrouver. C'est tellement différent.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание 2. Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений А, Ж соответствуют содержанию текста. 1. Vrai. Какие не соответствуют? 2. Faux. И о чем в тексте не сказано? То есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа. 3. Aucune information. Занесите номер выбранного вами варианта ответа в таблицу. Вы услышите запись дважды. У вас есть 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Une rencontre. Tiens, salut Patrick, quelle bonne surprise. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu viens souvent dans ce quartier?
Joël, quel hasard. Non, je viens juste voir un copain qui s'est installé dans le coin. Comment vas-tu?
Oh, moi ça ne va pas. Je suis très fatiguée en ce moment. Je suis dans une zone d'éducation prioritaire et j'ai beaucoup de mal avec mes élèves.
Ah bon? Mais tu as toujours voulu être prof? Qu'est-ce qui ne va pas, donc?
Tu vois, j'ai 3 classes de seconde avec de gros effectifs. 35 élèves par classe. Les classes sont vraiment surchargées. Et dans chacune, il y a plusieurs élèves qui ont pas mal de difficultés. Pour la première fois, j'ai du mal à faire passer mon cours de français. Je ne sais plus comment les motiver. Je me sens dépassée par tous ces problèmes.
Attends, j'ai une idée géniale qui va peut-être t'intéresser. Tu as entendu parler de cette prof de français qui permet à ses élèves d'utiliser leur portable pour faire des films?
Non, raconte.
Eh bien, elle leur demande d'écrire des scénarios, et puis ils mettent en scène ce qu'ils ont écrit et ils se filment. Ça marche très bien. Ils sont ainsi auteurs, acteurs et réalisateurs. Ensuite, les réalisations des élèves sont présentées sur un site internet et dans le cadre du festival Pocket Film du Forum des images à Paris.
Quelle excellente idée! Et ça s'appelle Pocket Film? Le film en poche, je suppose.
Oui, comme les élèves ont toujours leur téléphone sur eux, ils ont donc toujours une caméra avec eux. Ils n'ont pas peur de filmer ou d'être filmés. C'est naturel pour eux. Et du coup, ils ont une manière moins conventionnelle de faire du cinéma.
Tu m'as donné une très bonne idée. Je pense que je vais essayer. La semaine prochaine, mes élèves rentrent après les vacances de Pâques. Je pense que ce sera une bonne nouvelle pour eux. Je suis sûre que l'activité créatrice aura un effet thérapeutique.
Eh bien, bonne chance. Tu me raconteras comment ça s'est passé. Et bon courage.
Oui, bien sûr. Et merci, Patrick. L'idée me paraît vraiment géniale. Je te tiens au courant.
Au revoir, Joël.
Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
Une rencontre. Tiens, salut Patrick, quelle bonne surprise. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu viens souvent dans ce quartier?
Joël, quel hasard. Non, je viens juste voir un copain qui s'est installé dans le coin. Comment vas-tu?
Oh, moi ça ne va pas. Je suis très fatiguée en ce moment. Je suis dans une zone d'éducation prioritaire et j'ai beaucoup de mal avec mes élèves.
Ah bon? Mais tu as toujours voulu être prof? Qu'est-ce qui ne va pas, donc?
Tu vois, j'ai 3 classes de seconde avec de gros effectifs. 35 élèves par classe. Les classes sont vraiment surchargées. Et dans chacune, il y a plusieurs élèves qui ont pas mal de difficultés. Pour la première fois, j'ai du mal à faire passer mon cours de français. Je ne sais plus comment les motiver. Je me sens dépassée par tous ces problèmes.
Attends, j'ai une idée géniale qui va peut-être t'intéresser. Tu as entendu parler de cette prof de français qui permet à ses élèves d'utiliser leur portable pour faire des films?
Non, raconte.
Eh bien, elle leur demande d'écrire des scénarios et puis ils mettent en scène ce qu'ils ont écrit et ils se filment. Ça marche très bien. Ils sont ainsi auteurs, acteurs et réalisateurs. Ensuite, les réalisations des élèves sont présentées sur un site internet et dans le cadre du festival Pocket Film du Forum des images à Paris.
Quelle excellente idée ! Et ça s'appelle Pocket Film ? Le film en poche, je suppose.
Oui, comme les élèves ont toujours leur téléphone sur eux, ils ont donc toujours une caméra avec eux. Ils n'ont pas peur de filmer ou d'être filmés. C'est naturel pour eux. Et du coup, ils ont une manière moins conventionnelle de faire du cinéma.
Tu m'as donné une très bonne idée. Je pense que je vais essayer. La semaine prochaine, mes élèves rentrent après les vacances de Pâques. Je pense que ce sera une bonne nouvelle pour eux. Je suis sûre que l'activité créatrice aura un effet thérapeutique.
Eh bien, bonne chance. Tu me raconteras comment ça s'est passé. Et bon courage.
Oui, bien sûr. Et merci, Patrick. L'idée me paraît vraiment géniale. Je te tiens au courant.
Au revoir, Joël.
C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses.
Задание 3.9. Вы услышите интервью. В заданиях 3.9 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. У вас есть 50 секунд, чтобы ознакомиться с заданиями.
Maintenant, nous sommes prêts à commencer.
Un attelage est comme une équipe de football.
Entre 2005 et 2006, l'explorateur Romain Baumard a parcouru 8000 km à travers la Sibérie, affrontant neige et vent avec son attelage de 10 chiens. Il évoque les conditions extrêmes de ces contrées pour lesquelles l'adaptation reste le mot-clé. Les chiens ne souffrent pas du froid et peuvent résister à de très basses températures. Par contre, ils sont très sensibles au vent. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Il s'agit d'un phénomène très simple et bien connu. Un corps vivant perd 1 degré par mètre seconde de vent. Il est donc préférable d'être exposé à une température de moins 50 degrés sans vent qu'à une température de moins 20 degrés avec un vent de 40 mètres secondes. Tous les animaux sauvages qui habitent dans le Grand Nord connaissent inconsciemment ce phénomène. Les loups, par exemple, s'arrêtent pour se reposer dans des endroits parfaitement abrités du vent.
Comment s'est déroulé l'entraînement chez vous, au Québec, pendant un an ? Comment procédez-vous pour préparer vos chiens de traîneau à effectuer des trajets de parfois plus de 100 km ?
C'est un entraînement progressif qui vise à gérer le plaisir des chiens. Ils aiment en effet courir. Il faut donc que cela reste un plaisir. Le but est de ne jamais pousser les chiens au maximum de leur capacité. Ainsi, les chiens auront toujours la frustration de ne pas avoir atteint leurs limites. Ils vont ensuite compenser cela en allant plus vite. Le but, c'est donc d'aller le plus vite possible, car plus on avance sur le parcours, plus ils ont le temps de se reposer.
Vous devez être en parfaite symbiose avec vos chiens que vous connaissez depuis des années. Comment leur parlez-vous ? Comment trouvez-vous l'équilibre entre autorité et tendresse ?
C'est un équilibre assez naturel, dans la mesure où on parle beaucoup à ses complices, à ses amis. Je leur remonte les bretelles quand il faut et les encourage quand ils en ont besoin. Ces chiens sont au-delà de la période de dressage. Il suffit d'élever un peu la voix, de temps en temps, et ils interprètent très vite. Naturellement, ils comprennent quand je leur parle. Ils connaissent une quinzaine à une vingtaine de mots et comprennent, d'après mon ton, si je suis heureux, en colère, impatient.
Quels animaux avez-vous rencontrés lors de vos périples et qui vous ont marqué? Et quelles sont les réactions des chiens dans un milieu sauvage et naturel face aux loups notamment?
Les animaux que l'on voit beaucoup, ce sont les loups, car les chiens les attirent. Ce sont en effet des animaux très territoriaux, qui ne supportent pas la présence d'autres animaux, en particulier des chiens, sur leur territoire. La réaction des chiens est souvent assez prudente. Ils craignent les loups, qu'ils savent plus fort qu'eux. J'ai pu voir de nombreux autres animaux, comme des lynx, des mouflons, des perdrix des neiges, des chevreuils de Sibérie.
Vous décidez aujourd'hui d'arrêter ce genre d'aventure pour votre plaisir afin de vous consacrer à des projets d'éducation à l'environnement. Pourquoi une telle démarche de l'aventurier au pédagogue?
Je vais continuer à faire beaucoup de choses avec mes chiens, mais de façon moins ambitieuse. J'ai effectivement moins de plaisir qu'autrefois, car j'ai pu voir combien ces territoires fragiles sont aujourd'hui abîmés. Je vais utiliser ce que je sais faire. Faire rêver pour que la prise de conscience soit de plus en plus grande et que les générations futures puissent profiter des mêmes choses dont j'ai pu profiter moi-même. Vous avez 15 secondes pour terminer le devoir. Maintenant, vous allez entendre le texte encore une fois.
Un attelage est comme une équipe de football.
Entre 2005 et 2006, l'explorateur Romain Baumard a parcouru 8000 km à travers la Sibérie, affrontant neige et vent avec son attelage de 10 chiens. Il évoque les conditions extrêmes de ces contrées pour lesquelles l'adaptation reste le mot-clé. Les chiens ne souffrent pas du froid et peuvent résister à de très basses températures. Par contre, ils sont très sensibles au vent. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi?
Il s'agit d'un phénomène très simple et bien connu. Un corps vivant perd 1 degré par mètre seconde de vent. Il est donc préférable d'être exposé à une température de moins 50 degrés sans vent qu'à une température de moins 20 degrés avec un vent de 40 mètres seconde. Tous les animaux sauvages qui habitent dans le Grand Nord connaissent inconsciemment ce phénomène. Les loups, par exemple, s'arrêtent pour se reposer dans des endroits parfaitement abrités du vent.
Comment s'est déroulé l'entraînement chez vous, au Québec, pendant un an? Comment procédez-vous pour préparer vos chiens de traîneau à effectuer des trajets de parfois plus de 100 km?
C'est un entraînement progressif qui vise à gérer le plaisir des chiens. Ils aiment en effet courir. Il faut donc que cela reste un plaisir. Le but est de ne jamais pousser les chiens au maximum de leur capacité. Ainsi, les chiens auront toujours la frustration de ne pas avoir atteint leurs limites. Ils vont ensuite compenser cela en allant plus vite. Le but, c'est donc d'aller le plus vite possible, car plus on avance sur le parcours, plus ils ont le temps de se reposer.
Vous devez être en parfaite symbiose avec vos chiens que vous connaissez depuis des années. Comment leur parlez-vous? Comment trouvez-vous l'équilibre entre autorité et tendresse?
C'est un équilibre assez naturel, dans la mesure où on parle beaucoup à ses complices, à ses amis. Je leur remonte les bretelles quand il faut et les encourage quand ils en ont besoin. Ces chiens sont au-delà de la période de dressage. Il suffit d'élever un peu la voix, de temps en temps, et ils interprètent très vite. Naturellement, ils comprennent quand je leur parle. Ils connaissent une quinzaine à une vingtaine de mots et comprennent, d'après mon ton, si je suis heureux, en colère, impatient.
Quels animaux avez-vous rencontrés lors de vos périples et qui vous ont marqué? Et quelles sont les réactions des chiens dans un milieu sauvage et naturel face aux loups notamment ?
Les animaux que l'on voit beaucoup, ce sont les loups, car les chiens les attirent. Ce sont en effet des animaux très territoriaux, qui ne supportent pas la présence d'autres animaux, en particulier des chiens, sur leur territoire. La réaction des chiens est souvent assez prudente. Ils craignent les loups, qu'ils savent plus fort qu'eux. J'ai pu voir de nombreux autres animaux, comme des lynx, des mouflons, des perdrix des neiges, des chevreuils de Sibérie.
Vous décidez aujourd'hui d'arrêter ce genre d'aventure pour votre plaisir afin de vous consacrer à des projets d'éducation à l'environnement. Pourquoi une telle démarche de l'aventurier au pédagogue ?
Je vais continuer à faire beaucoup de choses avec mes chiens, mais de façon moins ambitieuse. J'ai effectivement moins de plaisir qu'autrefois, car j'ai pu voir combien ces territoires fragiles sont aujourd'hui abîmés. Je vais utiliser ce que je sais faire. Faire rêver pour que la prise de conscience soit de plus en plus grande et que les générations futures puissent profiter des mêmes choses dont j'ai pu profiter moi-même. C'est la fin de votre devoir. Vous avez 15 secondes pour corriger vos réponses. Votre épreuve de compréhension orale est terminée.
Время, отведенное на выполнение заданий, истекло.